8h30 et c'est le journal de Florence Paracuellos. Bonjour.
Bonjour Karine, bonjour à tous. 926 000 rendez-vous de vaccination pris hier soir sur Doctolib. Record absolu après l'allocution d'Emmanuel Macron. Il faut dire que le président a mis la pression avec l'extension du pass sanitaire. Ce sont les non-vaccinés qui assumeront les restrictions. Et pas de vaccin, pas de boulot. Ça c'est pour les soignants. Vaccination obligatoire à partir du 15 septembre. Une fermeté qu'il va falloir appliquer. Maintenant, les restaurateurs ne s'en réjouissent pas, on va l'entendre. Et quand ça ira mieux, la réforme des retraites, travailler plus longtemps, Emmanuel Macron y tient. Une nouvelle concertation sera lancée à la rentrée. Votre invitée Karine nous dira tout ce qu'elle a pensé des annonces du président, elle qui se présentera peut-être face à lui à la présidentielle.
Oui, Anne Hidalgo, notre invitée ce matin dans le grand entretien. Démonstration de force hier de la maire de Paris. Elle a affiché ses soutiens, montré qu'elle savait rassembler, esquisser un début de programme présidentiel. Seulement, elle ne décolle toujours pas dans les sondages. Comment compte-t-elle s'y prendre pour s'imposer? Vos questions sont les bienvenues au 01 45 24 7000 et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 8h20.
Et à la une ce matin, il y a aussi ce général napoléonien dont la dépouille arrive de Russie aujourd'hui, 2 siècles après sa mort, l'œuvre d'un Français qui veut rapprocher Moscou et Paris. Le Tour de France au départ d'Andorre. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de coureurs du peloton y habitent. La fiscalité y est avantageuse. Et puis Fast and Furious, 9e du nom, le blockbuster américain a été projeté à Cannes hier soir, loin du genre de beauté des compétitions officielles.
France Inter.
Le président n'avait pas fini de parler que la ruée commençait déjà sur Doctolib, des millions de connexions selon le site de prise de rendez-vous pour trouver un créneau de vaccination. L'effet passe sanitaire exigé dans les cinémas, les salles de spectacle, les parcs d'attractions dès mercredi de la semaine prochaine, puis dans les restaurants, centres commerciaux, trains, avions, autocars, salles de sport, à partir du mois d'août et ceux des 12 ans. Largement de quoi persuader les hésitants comme Sarah Damien, qui a passé sa soirée sur Doctolib succès.
J'ai vu qu'il y avait 15 minutes d'attente, puis ensuite ça n'a fait qu'augmenter. C'est passé à 30 minutes, donc j'ai pas pu avoir de rendez-vous pour le moment pour me faire vacciner. Mon été là, il est foutu quoi. Bah, je vais pas pouvoir voir mes amis, voyager. J'avais déjà pris un rendez-vous que j'ai dû annuler, donc là je me retrouve coincée puisque je peux plus avoir de rendez-vous. Je vais me connecter régulièrement sur Doctolib. Et je pense que je vais aller tous les soirs dans un centre de vaccination qui est à côté de chez moi pour essayer de choper une dose qui n'aura pas été donnée la journée. Et voilà.
Voilà, Sarah qui n'a donc pas l'intention de se faire tester à coups d'écouvillon dans le nez avant chaque sortie. Les tests deviendront d'ailleurs payants à partir du mois d'octobre hors prescription médicale. Eux n'auront pas le choix s'ils veulent garder leur boulot. C'est l'autre annonce du président. Les soignants seront bien obligés de se faire vacciner. Et le ministre de la Santé, Olivier Véran, en a remis une couche dans la soirée.
Au 15 septembre, tous les soignants auront dû bénéficier de leur deuxième injection. Ce qui veut dire que ça laisse même quasiment encore un mois pour celles et ceux qui seraient en vacances, par exemple, pour pouvoir commencer à se faire vacciner. Mais moi, je leur demande de ne pas attendre un mois. Je leur demande dès ce soir, dès demain, d'aller se faire vacciner. Il y a des vaccins qui les attendent. On parle là d'un public d'environ 1,5 million de personnes. On parle là de professionnels de santé, du soin, de l'accompagnement dans les hôpitaux, les EHPAD, au domicile. On parle aussi des pompiers qui peuvent être amenés à transférer des malades dans les hôpitaux, aux personnes soignants et non soignants qui exercent dans ces établissements. À partir du 15 septembre, si vous êtes soignant et que vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez plus travailler et vous ne serez plus payé.
Olivier Véran sur LCI, les soignants acculés, le pass sanitaire largement élargi, c'est donc l'option massue qu'a retenu Emmanuel Macron face à l'épidémie qui redémarre. Le président assume, Yael Gauz, la pédagogie et l'incitation, c'est terminé.
Prière de montrer son pass sanitaire. Même les députés de la majorité ont dû se plier aux nouvelles règles. Attestation et QR code exigés et contrôlés hier soir à l'entrée de l'Elysée avant d'être reçus par Emmanuel Macron. On ne transige plus avec les récalcitrants. Voilà le message, fermement martelé par un président debout, la tour Eiffel dans son dos. Un blast, un stop, reconnaît l'un de ses proches. Car dans l'échelle de la contrainte, c'est la fourchette haute qui est retenue avec la possibilité de frapper plus fort encore si nécessaire.
Vous l'avez compris, la vaccination n'est pas tout de suite obligatoire pour tout le monde, mais nous allons étendre au maximum le pass sanitaire et faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous.
L'obligation pour tous, par la loi, on n'y est pas, mais la menace est là. D'ailleurs, pourquoi parler de menace, s'agace un conseiller du président. C'est d'abord le choix de la confiance, du civisme, au pays de Pasteur. Les antivax, on ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif, lâche un responsable de la majorité. La feuille de route politique tient en trois verbes, éradiquer le virus, relancer, rassembler les Français. Sur la vaccination, le en même temps n'est plus tenable. Fermeté d'autant plus assumée que le président est convaincu que dans l'opinion, le vent a commencé à tourner. Pour preuve, la ruée sur le site Doctolib, motif de fierté à l'Élysée.
Et maintenant, sortez vos passes avant d'entrer au cinéma, donc la semaine prochaine, ou d'aller prendre un café à partir du mois d'août. Voilà qui pose des questions juridiques. Le projet de loi sera transmis aujourd'hui au Conseil d'État et certains juristes parlent déjà de rupture d'égalité entre les citoyens. Quant aux questions logistiques, ce sont les commerçants qui vont devoir les gérer. Exemple dans ces restaurants de Belfort avec Virginie Vandeville.
Le pass sanitaire, c'est le sujet qui fait débat à la table de Pierre et ses amis. Le Belfortin de 33 ans s'est bien fait vacciner, mais n'apprécie pas vraiment la méthode du président.
Ben, on n'a pas le choix. C'est tout des contraintes. On va aller au resto. Oh, t'as pensé à faire ton test PCR ? Enfin, c'est tout des choses, mais tous les 3 mois, en fait, ils changent d'avis. Liberté, égalité, fraternité. Moi, pour moi, ces 3 mots-là en France, ils n'ont plus énorme signification, hein, franchement.
Natal Pellicoro, le gérant du restaurant La Strada, lui, a déjà la tête dans la mise en place de ce pass sanitaire. Une application qui lui paraît bien compliquée.
Quelqu'un nous présente un test PCR négatif ou qui nous présente le passeport sanitaire. Pour nous, ça sera hyper compliqué de contrôler si c'est quelqu'un qui a prêté son téléphone. Donc, je ne sais pas comment ça sera possible de mettre tout ça en place, quoi.
Avec ce pass, le restaurateur s'attend à une baisse de sa clientèle. Mais après les fermetures à répétition liée à la crise sanitaire, ce patron l'assure, il s'adaptera de nouveau au nom de la sécurité de tous.
S'il faut qu'on referme, on refermera et puis on fera encore de l'emporter, on verra, on continuera à voir nos clients et puis voilà. Et en espérant que bon, voilà, les gens comprennent le message passé dernièrement et puis que les gens vont se faire vacciner parce que c'est le mot d'ordre, je crois.
Un mot d'ordre qui sera peut-être suivi par son personnel. Pour l'instant, aucun de ses salariés n'est vacciné.
Et sera-t-il possible de déjeuner en famille au restaurant pendant les vacances ? La vaccination des 12-17 ans n'a commencé que le 15 juin. Ils ne sont que 3% pour l'instant à être totalement vaccinés. Ils devront montrer leur passe sanitaire comme les adultes.
Et sorti de l'enjeu sanitaire, Emmanuel Macron se projette sur l'après.
La croissance à 6% cette année, l'emploi qui rebondira, la réforme de l'assurance chômage appliquée le 1er octobre pour que travailler rapporte plus que rester chez soi, dit le président. Travailler plus longtemps et supprimer les régimes spéciaux, ça c'est la réforme des retraites qui attendra la reprise et l'amélioration durable de la situation sanitaire. C'est exactement ce qu'attendait le MEDEF et son numéro 2, Patrick Martin.
Le président de la République fait preuve de pragmatisme d'une certaine manière en affichant d'un côté un volontarisme qu'on partage mais également un sens des réalités qu'on partage. De fait, les deux conditions que pose le président de la République rejoignent exactement ce que le MEDEF, ce que Geoffroy Roux de Bézieux avait exprimé, c'est-à-dire ne pas le faire précipitamment, ne pas se tromper de priorité, mais pour autant l'objectif de la réforme des retraites, et le président de la République l'a bien dit, est absolument incontournable si on veut que le pays se remette en ordre.
Voilà, le patronat et les syndicats appelés à la concertation à la rentrée sur cette réforme des retraites qui n'est toujours pas du goût de Philippe Martinez, le leader de la CGT.
Cette façon de présenter le dialogue social, c'est de l'arnaque, puisque on discute, mais à la fin, c'est lui, c'est le président de la République qui dicte ses intentions et ce qu'il veut faire. Donc ça, c'est pas du dialogue social. On reste déterminé et mobilisé parce que vouloir faire travailler plus longtemps ceux qui ont du travail, c'est fermer la porte à tous ceux qui cherchent du boulot et qui aimeraient bien remplacer ceux qui pourraient partir en retraite.
Philippe Martinez de la CGT et Patrick Martin du MEDEF avec Hélène Philly. Voilà pour les retraites, pour les jeunes sans travail et sans formation. Un revenu d'engagement est annoncé pour la rentrée dont les contours restent à définir. Enfin, un nouveau plan d'investissement est annoncé. Objectif, bâtir la France de 2030 et faire émerger les champions du numérique, de l'industrie verte, des biotechnologies, de l'agriculture de demain. En conclusion, le président nous donne rendez-vous à la rentrée pour, je cite, « bâtir la France » dans une fin de discours aux accents de pré-campagne électorale.
C'est un général d'Empire mort il y a 200 ans.
Le général Gudin qui trépassa lors de la campagne de Russie de Napoléon Bonaparte. Sa dépouille retrouvée il y a 2 ans est attendue aujourd'hui à l'aéroport du Bourget. Retrouvée par un homme qui suscite la controverse. Pierre Malinowski, ancien militaire, ancien assistant parlementaire de Jean-Marie Le Pen, féru d'archéologie et de diplomatie. Il veut rapprocher l'Élysée du Kremlin. Il aimerait que son général soit inhumé par Emmanuel Macron lui-même aux Invalides, Rémi Brancato.
sur le tarmac du Bourget pour accueillir le cercueil du général César Charles-Étienne Gudin de la Sablonnière se trouveront quelques grognards cet après-midi.
Nous serons plus d'une cinquantaine, donc en uniforme de l'Empire.
Pour Christian Bourdeil, le président de l'association Paris-Napoléon 2021, l'arrivée de la dépouille de ce général mort à Smolensk en 1812 est un événement.
Personne ne pensait qu'on allait retrouver la dépouille du général Gudin plus de 200 ans après. C'était tout à fait donc extraordinaire.
Cette découverte en Russie il y a 2 ans, c'est celle d'un Français, Pierre Malinowski, ancien militaire, ancien attaché parlementaire de Jean-Marie Le Pen, aux convictions patriotes, dit-il.
Moi, je suis très proche de Marion Maréchal. Je ne suis pas du tout le genre de personne que le pouvoir en place aime bien. Quoi.
Sa fondation franco-russe, créée avec la fille du porte-parole du Kremlin, opère des fouilles archéologiques.
Je veux retrouver un maximum de soldats disparus sur le champ de bataille et les enterrer. Moi, mon objectif premier, c'est ça.
Mais le but est surtout diplomatique. Il ne se cache pas de vouloir rapprocher Moscou et Paris.
Oui, bien sûr, ça fait une petite passerelle des discussions entre les deux pays qui aujourd'hui sont au point mort.
Il assure avoir convaincu il y a 2 ans Emmanuel Macron de recevoir Vladimir Poutine pour inhumer le général Gudin aux Invalides. Un projet abandonné depuis. L'Élysée dit simplement que le sort de la dépouille est toujours à l'étude.
Et pour l'instant, seule la ministre déléguée aux armées, Geneviève Darrieussecq, assistera à la cérémonie d'accueil du cercueil au Bourget aujourd'hui. Une journée plutôt calme à Cuba hier après les manifestations de la veille. Il faut dire qu'une centaine de manifestants, d'activistes et de journalistes ont été arrêtés et Washington accusé par le pouvoir cubain d'être à l'origine de ces troubles historiques dans l'île castriste. Plus de 300 noyades accidentelles, dont 79 mortelles entre début juin et début juillet. C'est bien plus qu'il y a 3 ans pendant la même période et Santé publique France appelle à la vigilance après des mois de restrictions qui ont limité l'activité physique des Français et les cours de natation pour les enfants. Sur le Tour de France, on frise plutôt l'overdose d'activité physique. 16e étape aujourd'hui entre le Pas de la Case en Andorre et Saint-Gaudens en Haute-Garonne. Le maillot jaune toujours sur les épaules du Slovène Tadej Pogacar. Après une journée de repos dont les coureurs avaient bien besoin, certains l'ont passé à la maison. Nous dites-vous, Jérôme Cadet, vous qui tenez la chronique du Tour ici même tous les matins.
Oui, plusieurs dizaines d'entre eux résident en Andorre, dont le champion du monde, Julien Alaphilippe, mais aussi des coureurs inconnus du grand public. Alors pourquoi choisir ce petit état enclavé au milieu des Pyrénées où il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de rouler à vélo? La montagne, bien sûr, idéale pour l'entraînement. Et puis la fiscalité. Le taux de TVA, 4,5%, est le plus bas d'Europe. Mais surtout, la principauté a tricoté un statut sur mesure pour attirer les artistes, chercheurs et sportifs de haut niveau, à condition d'habiter sur place 90 jours par an et de déposer 50 000 euros auprès de l'autorité financière du pays. Le taux maximal d'imposition ne dépasse pas les 10%. Désormais, Andorre fait concurrence à Monaco où résident les stars du peloton, comme le Colombien Egan Bernal ou le Slovène Tadej Pogacar. Quand Thibaut Pinot, lui, vit toujours en Haute-Saône et Romain Bardet dans le Puy-de-Dôme. Où vivent les champions? Cette question a-t-elle la moindre importance? Je vous renvoie aux mots de Guillaume Martin, premier Français du Tour et habitant du Calvados. C'était dans le journal L'Équipe dimanche. Moi, je n'ai pas de point d'ancrage. Regardez les grands champions, ils sont chez eux partout, dit-il. Démonstration aujourd'hui sur la route de Saint-Gaudens.
Jérôme Cadet, vous ne vous installez pas à Andorre, rassurez-nous, avec Céline Guérini. Et on vous retrouve demain pour la prochaine étape après 169 km de montagne aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas que les films d'auteur. À Cannes, chaque année, au moins un blockbuster est diffusé hors compétition. Et ce fut Fast and Furious 9 hier soir, avec Vin Diesel et Charlize Theron. Les amateurs ont été comblés, Yann Gallic.
À peine le temps de souffler, dès les premières minutes du film, le spectateur est embarqué dans une course-poursuite effrénée à travers la jungle. Des grosses cylindrées, des camions, des chars qui s'entrechoquent, des explosions à chaque coin de rue, des coups de poing, des coups de feu, des méchants vraiment très méchants, et même une voiture qui vole dans l'espace. Ce nouvel épisode de Fast and Furious enchaîne les scènes tellement surréalistes qu'elles en deviennent drôles, et les fans ne s'en lassent pas.
Je kiffe Fast and Furious, c'est même mon film préféré. Franchement, c'est l'adrénaline, l'action, les acteurs que je kiffe. C'est pour ça que je suis ici.
C'était super, on a adoré, moi qui a suivi en fait toute la saga entière. Là c'était incroyable, toutes les voitures, ils ont mis du paquet quoi. C'était impressionnant quoi.
J'ai regardé tous les Fast and Furious et celui-ci était un petit peu particulier par rapport aux autres. Un peu invraisemblable, mais pas mal quand même.
C'est mon premier film Fast and Furious, c'était trop bien.
Qu'est-ce qui t'a plu?
Les combats, les voitures, les explosions. tout.
Beaucoup de bruit et de fureur pendant près de 2h30. Fast and Furious est arrivé en tête du box-office aux États-Unis. Le film sortira demain sur les écrans français.
Voilà, et autre salle, autre ambiance en compétition officielle ce soir avec le dernier film d'Asghar Farhadi et puis le second film de la française Julia Ducournau qui sera votre invitée demain à 7h50.
Vous êtes drôlement bien informée, Florence
Paracuellos.
Exactement. Florence, restez encore un petit instant avec moi. C'est aujourd'hui, vous le savez, peut-être le jour des audiences, l'occasion une fois de plus de vous remercier, chers auditeurs, qui êtes 6 600 000 à nous suivre cette saison, faisant de France Inter la première radio de France de cette matinale également. Vous êtes plus de 4 millions à écouter quotidiennement la première matinale de Radio France. Un immense merci pour votre fidélité, évidemment.
On les remercie par ordre alphabétique, chacun d'entre eux.
Alors ça va peut-être être un petit peu long, on va pas s'en sortir là. Des records d'audience, notamment cette saison pour Boomerang d'Augustin Trapenard, pardonnez-moi, Grand bien vous fasse d'Ali Ribéi, la bande originale de Nagui, ou encore le 13-14 de Bruno Duvic et bien d'autres évidemment encore. Et vous, Florence Paracuellos, toujours à la tête de la première, du premier journal radio, puisque 2 313 000 auditeurs, très exactement, vous écoutent depuis septembre dernier. C'est vertigineux, non ?
Merci à tous.
Et bravo en tout cas à vous. Tout de suite, la météo.
La météo, avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Stéphanie Fromentin, les pluies et les averses continuent de rythmer notre journée.
Et la dépression avance vers l'est, mais tellement lentement qu'elle va mettre toute la semaine pour s'évacuer. Mmh. Les pluies associées sont parfois soutenues et orageuses, notamment sur l'est du pays, au nord de la Seine, ainsi que de la Normandie et des Pays de la Loire au sud-ouest, avec localement de bons cumuls. Une vigilance orange pluie-inondation lancée hier par Météo France est maintenue. Elle concerne le Doubs, le Jura, le territoire de Belfort, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Autour de la Méditerranée, à l'exception d'un risque d'ondée sur la Corse, le soleil l'emportera, soutenu par un vent qui se renforce et souffle par rafale de 80 à 100 km par heure.
Avec ce temps perturbé, l'ambiance est fraîche.
À part sur l'île de Beauté et la Côte d'Azur, qui profite encore de valeurs proches des 30 degrés, ce n'est pas la fête du mercure. Les températures ne dépasseront pas les 17 à 22 degrés en général. Il fera 17 à Belfort, 18 à Bourg-en-Bresse, 19 degrés à Verdun comme à Brive-la-Gaillarde, 20 degrés à Biarritz et Mont-de-Marsan, 21 à Lisieux, Lyon et Quimper, 22 à Valence comme à Lorient et Paris.
À tout à l'heure, Stéphanie. Tout de suite, géopolitique.
Le 6-9. Listen anywhere. Huawei, sur France Inter.
Bonjour Pierre Aski.
Bonjour Karine.
Alors vous revenez sur les manifestations de dimanche à Cuba.
Oui, les admirateurs de la révolution cubaine blâmeront les sanctions américaines rétablies par Donald Trump. Et les détracteurs du castrisme y verront de leur côté la faillite d'un régime, une révolution épuisée après plus de 60 ans. La réalité est sans doute l'addition des deux, car il est évident que les sanctions américaines, économiques et financières compliquent la vie des Cubains, mais on a bel et bien affaire à un système qui se montre incapable de se régénérer. Les manifestations qui se sont produites dimanche dans une vingtaine de villes de Cuba et de la manière la plus spectaculaire sur le Malecón, la célèbre avenue du bord de mer à la Havane, ont pris une ampleur quasiment inédite depuis la révolution cubaine, au moins depuis 1994. C'est un phénomène social et politique majeur dans un pays qui reste symboliquement fort en Amérique latine et au-delà. Difficile de dire à ce stade s'il s'agit d'un feu de paille ou d'un mouvement inscrit dans la durée, mais la réaction très ferme du pouvoir montre que l'alerte est prise au sérieux.
Qu'est-ce qui a déclenché ce mouvement ?
Alors le détonateur immédiat, c'est la grave pénurie alimentaire qui s'ajoute à une crise économique et sociale déjà profonde et à une résurgence sérieuse de la pandémie dans un pays qui ne cesse de vanter son système de santé, y compris ses vaccins anti-Covid. Mais le contexte historique est aussi important. Depuis seulement 3 mois, pour la première fois depuis 60 ans, ce n'est plus un Castro qui dirige Cuba. Fidel puis son frère cadet Raoul ont dirigé le pays depuis la révolution de 1959. Cette génération a cédé la place à Miguel Díaz-Canel, 60 ans, mais ce passage de témoin générationnel ne s'accompagne d'aucune inflexion politique. Le pouvoir communiste a lancé des réformes économiques, notamment monétaires, au prix d'une dévaluation de 2400% du peso cubain et d'une plus grande autonomie pour l'initiative privée. Mais pour l'heure, la population n'en subit que les effets négatifs, une inflation à 3 chiffres. Et surtout, aucune glasnost, comme on disait à Moscou sous Gorbatchev, aucune ouverture politique.
Et c'est effectivement ce que demandent les manifestants ?
Les manifestants de dimanche marchaient au cri de liberté, Karine. C'est-à-dire qu'au ras-le-bol exprimé face aux difficultés de la vie quotidienne, il y avait aussi une demande de respiration d'une société trop longtemps abreuvée de slogans. Signe de cette revendication libertaire, un air de rap composé en commun par des jeunes Cubains de La Havane et de Floride, très populaire sur le web et qui a été repris en chœur par les manifestants. Il s'intitule « La patrie et la vie », un détournement du slogan révolutionnaire « La patrie ou la mort », ce qui est en soi un crime de lèse Castro. L'appel à la mobilisation des militants communistes lancé par le successeur peu charismatique des frères Castro peut faire augurer le pire, une répression de ce mouvement accusé d'être à la solde des Américains. Ce régime en est capable pour survivre, mais dans le contexte de crise aussi profonde que celle que traverse Cuba et sans la légitimité des pères de la Révolution, c'est peut-être suicidaire.
Merci Pierre Aski, à demain. Anne Hidalgo est notre invitée à suivre.